l'économie en marche. Présenté par Jean Taillarda.
Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous émettons en direct et j'ai le plaisir d'accueillir l'un des candidats aux élections régionales qui se déroulent pour le premier tour dimanche. Et il s'agit de Claude Taleb qui représente Europe Écologie Les Verts. Et j'accueille également dans le studio Cyril Moreau qui est son directeur de campagne. Bienvenue.
Merci, bonjour, merci de votre accueil.
Bienvenue à vous. Alors, comme je le fais pour tous mes invités, je vais vous demander qui êtes-vous, Claude Taleb, quel a été votre parcours professionnel et comment êtes-vous arrivé à la politique?
J'ai 51 ans, j'ai deux jeunes filles qui sont jeunes femmes, qui sont toutes les deux étudiantes, qui d'ailleurs ont pour faire des études qui leur convenaient ont dû quitter la région. C'est un sujet en soi d'ailleurs qui, je trouve, devrait peut-être davantage être pris en compte quand on réfléchit un petit peu à l'organisation des parcours de formation dans notre région. Je pense qu'il faudra à l'avenir qu'on sache proposer mieux aux jeunes de notre région. Donc mon parcours professionnel, eh bien écoutez, c'est celui de quelqu'un qui rentrait assez jeune dans une entreprise qui était à l'époque une administration qui s'appelait les PTT et j'ai travaillé dans le secteur des télécoms. Depuis, cette entreprise a beaucoup évolué, puisque d'abord la séparation de la Poste et des télécoms, et ensuite la transformation des télécoms en entreprise, en société anonyme, en société qui ont, chacun connaît les activités. Hein, c'est donc aujourd'hui Orange France Télécom. Je suis en charge de la politique de responsabilité sociale et environnementale au niveau de la Normandie.
Vous travaillez toujours en dehors de vos activités politiques?
Oui, je travaille toujours et j'y tiens beaucoup parce que je pense que c'est important de garder un ancrage professionnel quand on est élu. Être élu, c'est pas une profession, c'est un mandat, c'est une responsabilité à un moment donné. Donc je pense en règle générale qu'il faut exercer un seul mandat à la fois parce que ça prend bien, ça occupe bien. Si on veut le faire correctement, il faut le faire pleinement. Et donc évidemment, pour que ça reste compatible avec une vie sociale et professionnelle, je dirais... plus normal, eh bien effectivement le fait de n'en exercer qu'un seul permet de continuer à garder un ancrage, une activité professionnelle. Ça a l'intérêt de pas dépendre de la politique pour sa vie, pour ses fins de mois, d'une part, et puis je dois reconnaître en toute honnêteté que quand on travaille, qu'on exerce un mandat, ça octroie une certaine liberté aussi dans son activité professionnelle, puisque en règle générale, les collègues, les employeurs ont une certaine forme de reconnaissance ou peut-être d'estime pour ceux d'entre eux qui exercent des mandats d'élus.
Alors comment êtes-vous arrivé à la politique et quand avez-vous été élu pour la première fois?
Je suis arrivé à la politique, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est-à-dire, j'étais jeune dans les années 70, qui était une période de grand foisonnement. De contestation, et je me suis à l'époque assez retrouvé dans les contestations sociétales de la jeunesse des années de l'après 68. Donc je me suis intéressé à la politique depuis cette époque-là, engagé à gauche depuis toujours, et puis petit à petit, et depuis maintenant un moment, puisque finalement j'ai rejoint l'écologie Les Verts en 1991, je crois, donc assez rapidement quand même conquis par le fait que la capacité qu'avaient les écologistes à préconiser un avenir quand même très très différent, très avec une vision globale des choses, des équilibres planétaires, avec une prise en compte inédite, puisque personne ne l'avait fait avant eux, des enjeux de limitation des ressources de la planète. Et donc j'ai été séduit à ce moment-là par l'irruption de l'écologiste, qu'elle pouvait apporter un petit peu de neuf par rapport à des histoires et aussi à des clivages récurrents qui étaient quand même issus maintenant d'un moment. Les clivages qui structuraient la politique encore dans les années 70 étaient ceux issus du début du XXe siècle, de l'industrialisation, de la lutte des classes. Il m'a semblé que l'écologie, c'était une façon de revisiter ces questions-là de façon peut-être plus positive, plus constructive, plus porteur de qualité de vie pour le plus grand nombre.
Alors comment vous situez-vous, Claude Taleb, dans les Verts, notamment vis-à-vis de Daniel Cohn-Bendit, Cécile Duflot, Eva Joly, José Bové, Dominique Voynet, etc. Expliquez-nous, parce qu'il y a beaucoup de vers.
Oui, mais justement, la magie d'Europe Écologie, c'est que toutes ces compétences-là, tous ces parcours-là, aujourd'hui, sont totalement la main dans la main. Bon, j'étais hier soir au Havre pour le dernier réunion publique de notre campagne régionale pour un meeting, justement, qui avait la particularité d'être un meeting normand, puisque c'était un meeting d'Europe Écologie haute et basse Normandie ensemble. C'était un choix. On a eu envie d'affirmer cette capacité-là à travailler ensemble, à essayer de se projeter dans l'avenir, d'imaginer l'avenir des Normandies ensemble. Et on a eu le soutien de Dominique Voynet. Mais la semaine passée, à Rouen, on avait le soutien d'Eva Joly. J'ai eu l'occasion de me précipiter ce matin à regarder sur Internet la vidéo de l'intervention de Cécile Duflot. Et je dois dire que je ne suis pas le seul aujourd'hui. Enfin, on est beaucoup, très nombreux parmi les écologistes et les Verts de la première heure à beaucoup apprécier le rôle que joue Cécile Duflot à ce moment particulier de l'histoire de l'écologie, parce qu'elle incarne une espèce de renouvellement, de fraîcheur, à la fois de combativité, mais aussi de sens de la responsabilité, qui, me semble-t-il, apporte beaucoup de rafraîchissement à la vie politique de notre pays, qui en a quand même bien besoin.
Cécile Duflot est elle-même élue à un conseil régional ?
Non, elle est élue municipale. Je crois qu'elle est élue, elle doit être adjointe à Villeneuve-Saint-Georges,
en banlieue parisienne.
Oui, tout à fait.
D'accord. Alors, parlez-nous, Claude Taleb, des principaux candidats de votre liste. Vous êtes tête de liste, bien entendu. Quels sont ceux qui peuvent passer ?
Alors, écoutez, on espère que le plus possible vont passer. On a constitué une liste sur le principe d'Europe Écologie en essayant d'avoir un équilibre entre des personnalités engagées dans la vie politique dont je fais partie, puisque je suis membre des Verts depuis maintenant pas mal de temps. Je suis élu moi-même depuis 2004 à la région. Donc d'avoir un équilibre et donc une parité de candidature entre des Verts et des personnes issues davantage de la société civile, de l'écologie associative. Donc pour vous dire quelques mots de quelques-uns des candidats, je dirais que du côté des Verts déjà un peu connus, outre moi-même, il y a Véronique Bérégovoy, qui est rouennaise, qui est bien connue des Rouennais, qui était elle-même déjà conseillère régionale. Il y a David Cormand, qui est un élu de l'agglomération, qui est en charge de la mise en place de filières d'éco-construction, qui fait un travail important, intéressant, utile au niveau de l'agglomération rouennaise. Il y a Jean-Pierre Giraud, qui est, je crois, peut-être le plus connu, ou un écologiste engagé quand même de longue date, qui lui a déjà été plus de deux mandats à la région et qui a beaucoup développé les politiques environnementales de la région. Donc, disons, pour parler donc rapidement, mais aussi Jérôme Bourlet, dans l'heure, qui est un petit peu moins connu, qui lui est président du SCOT de Senneur, et qui est, donc voilà, je vous ai là parlé des Verts. Et puis, il y a donc des candidats d'ouverture qui représentent d'autres sensibilités. On est très très content, très très fier, très admiratif de notre tête de liste dans le département de l'Eure. C'est quelqu'un qui s'appelle Perrine Hervé-Grouillet, qui vient pas du tout du monde politique, pour qui c'est la première fois qu'elle s'y engage à l'occasion de cette campagne. Elle croit beaucoup et je pense qu'elle représente très bien Europe Écologie. Elle est agricultrice biologique. Elle a créé une ferme avec son époux au Bec-et-Loin, au pied de la ville du Bec-et-Loin. Son challenge, c'est d'abord d'en vivre, évidemment, de fournir en produits de qualité, en produits frais des habitants de son secteur. Et c'est aussi, au-delà, de pouvoir démontrer que pour l'avenir, l'agriculture biologique peut être une solution, y compris en adoptant des process qui la rendent finalement tout à fait compétitive et aussi productive que l'agriculture conventionnelle. Ça paraît surprenant, mais il suffit d'aller la voir sur le terrain dans sa ferme pour qu'elle vous explique ça très bien. Elle a eu un parcours personnel, professionnel, international qui lui a permis de se frotter un peu à d'autres cultures et notamment à ce que font les anglo-saxons en matière d'agriculture. Et elle est parfaitement capable aujourd'hui de démontrer la validité de modèles productifs d'agriculture biologique. Donc voilà, donc j'ai parlé de Perrine. On a sur notre liste avec de bonne chance d'être élu quelqu'un qui s'appelle Laure Le Forestier, hein, qui vient d'une autre formation politique, CAP 21, elle-même issue du MoDem de François Bayrou, qui est une ancienne adjointe de Pierre Albertini à Rouen, et qui rejoint aujourd'hui Europe Écologie parce que elle pense qu'elle peut y apporter ou y valoriser ses expériences, son ancrage, ses exigences en matière de politique culturelle, en matière de démocratie. Je crois que c'est ça le fondement de son engagement, y compris dans le mouvement démocrate à l'époque, c'était de renouveler un petit peu le système politique, d'introduire davantage de démocratie dedans. Donc voilà les qualités de l'or. Nous avons Frédéric Malvaux, qui lui aussi est très connu, je crois, parce qu'il est, il était il y a quelques semaines, avant de s'engager sur cette liste, président de la Fédération régionale Haute-Normandie Nature Environnement, c'est-à-dire la fédération de toutes les associations de protection de la nature et de l'environnement. Frédéric Malvaux est un ornithologue qui fait vraiment référence, hein, qui est très très connu, qui est vraiment un champion de la connaissance des petits oiseaux, de la vie des oiseaux et de ce qu'ils nous disent sur l'état de notre environnement, sur l'état de notre monde. Il a passé beaucoup d'années à organiser le mouvement environnementaliste et on est évidemment très très content que lui aussi se soit décidé cette fois-ci à faire le franchir le pas de l'engagement dans la responsabilité politique. Je pense et je souhaite qu'il soit élu parce que je crois que ce sera un renfort précieux pour la région que Frédéric Malvaux en soit. On pourrait parler encore longtemps, on a d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement en position éligible, mais qui ont voulu marquer là leur engagement.
Bien sûr. Alors, vous avez quatre grands défis, inventer, renouveler, accompagner et réconcilier. Alors, nous allons décliner un petit peu ces grands défis. Alors, allons-y pour inventer. Que voulez-vous inventer ?
On a le pressentiment, et il nous semble qu'il est un peu partagé, par de plus en plus de personnes, qu'on est à un moment un peu de carrefour de conjonction des crises financières, économiques, sociales, environnementales, démocratiques peut-être un petit peu, et qu'il sera difficile de s'en sortir en utilisant la boîte à outils d'hier et d'avant-hier. Quoi. C'est-à-dire qu'il ne semble pas qu'il suffise de refinancer ou de sauver de la faillite le système bancaire, de mettre des cautères sur des jambes de bois, c'est-à-dire de bon, évidemment, il faut intervenir à chaque crise sociale, à chaque difficulté économique pour essayer de sauvegarder autant qu'on peut le faire des emplois, mais il nous semble pas que le seul utilisation de ces types d'intervention, de solutions nous permettent de retrouver le chemin d'un développement humain, économique qui serait davantage solidaire et qui serait respectueux de l'environnement. Et donc on a obligation d'une certaine façon d'inventer un nouveau modèle de développement. On a de toute façon l'intuition que on va changer de civilisation, alors sans doute pas l'année prochaine, mais à l'échéance d'une génération, à l'échéance je pense à mes enfants quand je parle de ça, ou à leurs enfants aussi, les choses vont changer puisque on sait que les ressources de la planète sont, pour un certain nombre d'entre elles, sont limitées, sont finies même parfois. On sait que on va vivre dans une société qui pourra beaucoup, beaucoup moins qu'aujourd'hui reposer sur l'usage immodéré du pétrole et que dans cette situation, il nous semble absolument indispensable d'inventer un nouveau modèle de développement.
Alors, votre deuxième défi, renouveler. Il s'agit de renouveler quoi ?
Alors, il s'agit de renouveler peut-être, même sans doute, totalement les objectifs des politiques publiques et puis aussi, en même temps, la façon de faire. La façon de faire qui me semble aussi importante que les objectifs eux-mêmes, pour me faire comprendre. Je pense que un défi du moment, c'est le défi du logement. On sait depuis pas mal d'années que le droit au logement, finalement, est difficile à mettre en œuvre, est un objectif qu'il est difficile à atteindre, qu'on n'atteint pas, en tout cas, même quand on décide de le fixer dans la loi. Il nous semble qu'on peut renouveler la manière de se préoccuper de ça, en s'assurant que non seulement chacun puisse être logé, mais aussi que chacun puisse être logé dans du logement de qualité, c'est-à-dire du logement qui, notamment, on est dans cette région très mal loti, puisqu'on a un parc de logements, de bâti, un patrimoine bâti qui est constitué de passoires énergétiques, donc qui ne protège pas du froid, qui ne protège pas de la chaleur, et qui a pour conséquence des consommations d'énergie extrêmement importantes et qui pèsent beaucoup sur le pouvoir d'achat des personnes. Et donc, il nous semble que là, si on veut faire une politique active et efficace de logement, on ne peut pas se contenter de faire comme jusqu'à présent on a fait, de construire de grands parcs de logements sociaux chauffés à l'électricité, par exemple, parce que ça, c'est pas durable, qu'il faut faire absolument et radicalement autrement pour savoir à la fois limiter les émissions de gaz à effet de serre et aussi restituer du pouvoir d'achat par diminution des charges aux personnes. Et puis, ce challenge, qui est une des priorités de notre projet pour la Haute-Normandie, on pense qu'il ne pourra pas, et c'est ça que je disais, c'est à la fois l'objectif mais aussi la manière d'y aller, on ne pourra pas l'atteindre si on met pas tout le monde dans le coup, c'est une ambition considérable qui nécessite de l'investissement privé, qui nécessite de l'investissement public. Moi, je pense que la région pourrait décider de mettre 1 milliard sur la table sur 20 ans, hein, donc c'est 50 millions par an, donc c'est un effort important sur un budget de 5% de son budget aujourd'hui, qu'elle pourrait décider de le faire. Bon, ça, c'est pour sa part. Il y a besoin évidemment de mobiliser les entreprises, hein, c'est impossible d'avancer dans ce sens-là si on ne met pas dans le coup tout le monde. Donc quand je dis tout le monde, c'est là il y a vraiment du travail pour tous les artisans de la région. J'ai eu l'occasion d'en parler avec eux, j'étais invité avec d'autres candidats au salon Normand-Bat, on a parlé de ça. Donc il y a beaucoup d'artisans, beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par ça, et puis aussi les grandes entreprises, parce que elles aussi, elles ont un rôle à jouer, hein, pour relever ce type de défi-là. Et puis bien sûr, si on veut faire ça, il faut le faire en lien avec les objectifs publics au niveau environnemental, hein, avec de façon à construire en s'assurant de le faire à un très bon niveau de qualité. Il faut le faire avec les locataires. Donc la nouvelle méthode, ce serait de mettre tout le monde autour de la table, hein, c'est d'ailleurs lié, je crois, à un autre objectif qui est de réconcilier, c'est de se dire que si on veut marquer des points dans ces domaines-là, on peut pas, il faut surtout pas opposer les uns aux autres. Il faut maintenant réellement faire des diagnostics partagés de la situation de la planète et des difficultés sociales et mettre autour de la table toutes les personnes qui peuvent contribuer à trouver des solutions efficaces.
Vous n'hésitez pas, Claude Taleb, à parler de plan Marshall sur le logement. Ça rappelle l'après-guerre. Donc vous dites, le logement est en péril, il faut tout changer. Il faut mettre de l'argent sur la table et ça créera des emplois.
Oui, absolument, absolument. Oui, la comparaison est peut-être un petit peu abusive, quoique si on regarde aujourd'hui les consommations moyennes, hein, c'est le travail d'étude a été faite par l'ADEME, hein, par les services de l'État, montre que en gros, on a vraiment des passoires énergétiques dans la région, c'est-à-dire on consomme 6-7 fois plus en moyenne que ce que les préconisations du Grenelle de l'environnement. Donc il y a quand même une certaine urgence à agir et à mener une action de très grande ampleur, hein, pour mettre à niveau le parc de logements, qu'il soit public, privé, locatif, collectif, individuel, et que ça va prendre du temps. Hein. Et puis ça demande de l'argent, donc c'est l'idée du plan Marshall. C'est de dire, on met le paquet là-dessus.
Alors, Claude Taleb, je vais vous demander l'autorisation de faire une première pause musicale.
Bien sûr.
Et vous allez entendre « Ma France » chanté par Jean Ferrat.
Très bien, Jean Ferrat.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une.
Une très belle chanson de Jean Ferrat. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, que j'interviewe Claude Taleb, qui est tête de liste d'Europe Écologie aux élections régionales qui se déroulent dimanche prochain pour le premier tour. Et je suis heureux de faire avec vous, Claude Taleb, une émission en direct. Je vais dire aussi aux auditeurs qui pourront réécouter cette émission de 23h à 24h ce soir. Donc alors, nous allons parler de vos engagements. Vous citez la biosolidarité, la diversité, le partage. Ce sont des grands mots pour vous.
Ce sont des grands mots, c'est plus que des grands mots. On pense que c'est vraiment des incontournables. La biodiversité, ou vous avez dit la biosolidarité, pourquoi pas, ça peut aller ensemble. C'est l'idée quand même, et la chanson de Jean Ferrat, là, elle parlait justement de la France qu'il aimait, c'était la France de la diversité. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager, même si sans doute on ne retrouvera pas dans les mêmes formes, dans les mêmes conditions, l'âge d'or qu'il évoque dans cette chanson. Mais pour nous, la biodiversité, c'est extrêmement important, c'est l'avenir de la vie sur Terre. On pense que les petits oiseaux et les petites fleurs, c'est vital. C'est pas des choses dont on peut se passer, qu'on pourrait négliger. Ce serait une grave erreur de le faire. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où les systèmes qu'on a mis en place, notamment, quand même, il faut le dire, hein, sans chercher à incriminer quiconque, les systèmes agricoles, hein, ont abouti, mais aussi l'étalement urbain ont abouti à très très handicapés. Hein, les espaces dits naturels, enfin, qui sont préservés pour la nature, et mettent en danger l'avenir de la biodiversité. Et donc, on peut parler de biosolidarité comme vous l'avez fait, pourquoi pas, parce que finalement, là aussi, c'est des choses qu'il faut défendre, mais pas défendre comme des privilèges pour quelques-uns, mais comme des besoins, comme des droits pour tous. Hein, les personnes finalement qui bénéficient le moins de la biodiversité, du charme, enfin du plaisir, hein, qu'on peut retirer à se trouver dans des espaces naturels protégés, à contempler des paysages qui ne sont pas banalisés, eh bien, ces droits-là sont des droits dont sont privés les personnes les plus en difficulté, les personnes les plus faibles dans nos sociétés aujourd'hui, les personnes qui vivent dans des quartiers relégués où parfois il n'existe plus le moindre mètre carré d'herbe, hein, ou de nature véritable.
Alors parlons un peu de l'agriculture. Vous la voulez garante d'une alimentation de qualité. Et tout à l'heure, on parlait de l'agriculture bio, bien entendu. Mais dites-nous, Claude Taleb, ce que vous pensez de la crise, la baisse des revenus agricoles que subissent les paysans. Et qu'est-ce que vous pensez de la crise du lait? Comment allez-vous résoudre ça?
Bah écoutez, là, on est vraiment dans un drame social. Hein. C'est de ça dont il faut parler. Parce que c'est vrai que une grande partie, hein, j'ai vu que la baisse du revenu agricole, c'est 30% à un an pour une grande partie des éleveurs et des producteurs de lait, par exemple. Et effectivement, c'est un drame social. On n'imagine pas dans nos villes, hein, que sur un an, perdre 30% de pouvoir d'achat, enfin, pour la plupart des salariés aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement impensable. C'est pourtant quelque chose qui se passe dans nos campagnes. Donc ça exige de prendre ces questions-là très sérieusement, avec beaucoup de respect pour les agriculteurs. Parce que je crois que s'il est évident qu'il faut se poser des questions sur la manière dont l'agriculture a évolué, dont elle s'est industrialisée en particulier, et ça a beaucoup d'impact, à mon avis, négatif à la fois pour les milieux naturels et pour les agriculteurs eux-mêmes. Pour autant, les agriculteurs, eux, ne sont pas responsables de cette situation pour la plupart. Ils se sont trouvés piégés dans des systèmes, des organisations, des systèmes productifs qui les conduisent à une forme de course à l'endettement, hein, pour s'équiper, à la suremploi, à la surutilisation de produits qui coûtent cher, de produits chimiques qui coûtent cher pour l'agriculture chimique. Je pense au prix des intrants, c'est pas des choses qui sont données. Les phytosanitaires, ça coûte cher, et donc ils se sont peu ou prou et progressivement trouvés entraînés dans ces dynamiques-là. On leur a aussi parfois, voire souvent, fait croire que le salut pouvait être trouvé, par exemple, ce que je considérais être quand même un détournement du métier d'agriculteur, parce que les agriculteurs, on en a absolument besoin pour nous nourrir, pour nous apporter des produits de qualité. Et quand je vois qu'on est prêt à mobiliser, la région Normandie est malheureusement un peu en haut du palmarès dans ce domaine-là, 10 ou 15% des surfaces agricoles, non pas pour nourrir les gens, ni pour nourrir nos véhicules à moteur. Je me dis là, il y a quand même une dérive, hein, il y a une espèce de détournement de l'objet d'agriculture qui est quand même très, très regrettable. Alors, comment faut-il en sortir? Moi, je constate que on a des agriculteurs, on a un producteur de lait bio qui est sur notre liste en Seine-Maritime, je crois à la 11e place sur la liste, qui s'appelle Stéphane Lefebvre. Il est producteur de lait bio depuis, il a fait sa conversion, je crois, il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il est relativement à l'abri de la crise du lait, par exemple. Hein, et il nous explique que ce qui fait la différence entre sa rémunération aujourd'hui et celle de ses collègues, c'est que lui est réellement touche une rémunération qui est le produit direct de la rencontre de l'offre et de la demande. Or, il y a une demande très forte de produits de qualité biologique aujourd'hui qui fait que les prix sont maintenus. Dans le cas contraire, on est là sur un système de rémunération qui se joue dans des salles de marché. Hein, et je pense que c'est malheureusement quand même cela que subissent aujourd'hui les agriculteurs. Bon, il y a aussi secondairement le rôle des intermédiaires, la grande distribution, enfin, c'est qui nous invite quand même à réfléchir à des systèmes peut-être sans doute plus directs, hein, de liaison entre l'agriculture et puis les consommateurs. Hein, il y a d'ailleurs des tentatives, il y a des expériences qui se développent depuis quelques années, hein, pour faire en sorte que, autour du mouvement des AMAP, hein, qui faire en sorte que les gens aient la garantie finalement de l'origine des produits qu'ils consomment, et en se faisant, en même temps, eux-mêmes apportent une forme de sécurité aux agriculteurs qui les fournissent. Je crois, pour l'avenir, qu'il faut vraiment réfléchir à ce type de solutions.
Alors, Claude Terrible, je suis content que vous ayez parlé en mal des biocarburants. Enfin, j'ai compris que vous en parliez en mal. Je trouve personnellement que c'est une aberration, alors que la moitié du monde crève de faim, même plus. Mettre des aliments, finalement, dans nos moteurs, c'est horrible. Et d'autre part, on leurre les agriculteurs en faisant ça, parce que avant peu, l'éthanol, il ne viendra pas de la betterave, il viendra du Brésil, il sera importé, et d'autre part, l'ester de colza sera remplacé par l'ester d'huile de palme, produit en Malaisie et en Indonésie. Donc c'est horrible.
Bah oui, surtout que c'est produit, comme vous le dites, en Indonésie ou en Malaisie, au détriment de forêts primaires, hein, au détriment du prix de la déforestation et donc de l'aggravation tout à fait dramatique de la situation du climat planétaire. Oui, c'est vrai, vous avez raison. En plus, moi, je n'ai parlé que des surfaces agricoles dans notre région, mais au-delà, vous avez raison de souligner le fait que l'enjeu, c'est les pays du Sud. Hein, c'est finalement privé des gens des agricultures vivrières dont ils ont absolument besoin pour se nourrir, hein, tout ça pour nourrir nos voitures. Donc là, on marche sur la tête et reviens un petit peu à ce qu'on évoquait au tout début. On est quand même dans un système, là, une espèce de moment de notre civilisation où on doit, me semble-t-il, s'interroger vraiment sérieusement sur les tenants et les aboutissants de ce qu'on entreprend.
Alors, restons un peu dans le domaine de l'énergie. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Il y a une crise du raffinage qui est prodigieuse, c'est-à-dire qu'en France et dans d'autres pays d'Europe, on a des excédents d'essence colossaux. Et par contre, on est obligé d'importer le gazole de Russie, et les excédents d'essence, on ne peut plus les exporter vers les États-Unis, parce que les États-Unis, la côte est des États-Unis, a maintenant des voitures moins gourmandes. Donc on peut s'attendre à une crise qui dépasse de bien loin la crise de la raffinerie de Dunkerque. Et on parle d'importer des produits finis du Moyen-Orient, voire de l'Inde. Qu'en pensez-vous? Et qu'allez-vous faire pour sauver le raffinage? Surtout en Haute-Normandie.
Bah, c'est une question tout à fait redoutable. Moi, je vous avoue que je suis un peu sidéré qu'on se pose ces questions-là quand il y a le feu au lac, quoi. C'est-à-dire quand on s'aperçoit que la seule perspective qui est devant nous, c'est celle de plans sociaux, toutes les conséquences humaines dramatiques qu'on peut imaginer, hein, et que on sache pas anticiper ça. Je n'arrive pas à m'expliquer. Que ni les pouvoirs publics, ni les industriels qui sont aux manettes, hein, qu'il s'agisse des pétroliers, mais aussi peut-être on peut parler en amont du rôle de l'industrie automobile dans ce système, hein, ne sachent pas anticiper ça. Et donc c'est un peu ça peut-être une des principales critiques de l'écologie. On aimerait bien passer de système où on est dans la réparation des dégâts environnementaux, des dégâts sociaux. On est une espèce de pompiers, finalement, les pouvoirs publics, on serait les pompiers. Hein, et donc passer de ce système à un système où on saurait davantage anticiper. Alors anticiper, moi je ne suis pas un spécialiste des marchés mondiaux du pétrole ou de la connaissance de la ressource, mais enfin quand même, il est maintenant de notoriété publique que la ressource elle est limitée. On ne sait pas quand ça va réduire, mais on sait que ça va plus augmenter de manière importante, en tout cas à des coûts raisonnables, puisqu'il y a sans doute des gisements plus profonds et tout, mais qui sont inexploitables parce qu'ils seront beaucoup trop chers à l'exploitation. Donc on a une ressource qui est limitée. On sait que la demande va augmenter du fait de l'émergence des pays dits émergents, justement, le Brésil, l'Inde, la Chine. Et donc, on va avoir une tension sur les prix du pétrole qui est... Bon, je veux dire, c'est du niveau d'école primaire que de comprendre que le prix du pétrole dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, sera plus proche de celui de 2008, hein, qu'on a connu au moment de la flambée de 2008, qu'il n'est aujourd'hui. Dans cette situation, le rôle des pouvoirs publics, c'est de ne pas cacher cette vérité-là aux habitants, c'est de ne pas cacher cette vérité-là aux acteurs économiques, c'est d'en parler à tous ceux qui brûlent du pétrole, hein, pour leur métier, pour chauffer leurs immeubles, etc., pour se demander ensemble comment est-ce qu'on fait. Et moi, j'en veux beaucoup, je vous le dis avec tranquillement, c'est avec sérénité. J'en veux quand même beaucoup au fait que les industriels de la pétrochimie n'anticipent pas davantage que ça cette situation. Je pense qu'au fond de même, ils le savent, et sans doute bien mieux que moi, hein, ce qui va se passer. Et c'est difficile à comprendre que ce qu'on connaît bien dans la région, on a 3 raffineries, vous l'avez dit, n'est pas commencé de manière plus, je dirais, proactive à investir dans les énergies de l'avenir. Et les énergies de l'avenir, c'est quand même du côté des renouvelables qu'il faut chercher. Moi, je ne m'explique pas, hein, que les grands pétroliers de la région ne soient pas en train de reconvertir massivement leurs process, hein, pour peut-être sur les mêmes sites industriels être capables à l'avenir de produire les équipements qui sont nécessaires, par exemple, pour développer les énergies renouvelables. Je pense à l'éolien, je pense au photovoltaïque. Enfin, il y a un certain nombre d'industries nouvelles qui peuvent se développer et qui appellent en plus des puissances financières, économiques, des capitaux que justement ces industriels peuvent lever, hein, qui sont quand même pas à la portée de tout le monde. C'est pas la région qui peut mobiliser les sommes considérables qui sont là en question. Hein.
Alors, dernier point, Claude Taleb, sur l'énergie nucléaire. J'ai compris que vous êtes farouchement contre. Pourtant, on en a besoin et on est bien content d'avoir maintenant les centrales nucléaires. Je rappelle à nos auditeurs que presque 80% de l'électricité est produite à partir des centrales nucléaires.
Oui, mais c'est incontestable. C'est un choix qui a été fait à une époque qui pourrait épiloguer assez longtemps sur ses conséquences quand même, parce que c'est aussi un choix qui, du coup, a stérilisé les efforts de recherche et développement dans d'autres domaines. Hein. C'est sans doute pas un hasard, c'est même très clairement une conséquence de ce choix qui fait que la France est en retard dans le domaine des renouvelables. Hein. On est mal parti pour atteindre les objectifs qui sont partagés de la communauté internationale de produire au moins 21% de notre énergie par les renouvelables, parce qu'on voit bien qu'il y a des vases communicants, c'est-à-dire que, pour être plus clair, on produit avec l'éolien offshore en Scandinavie l'équivalent de 20 réacteurs nucléaires. Donc bon, je peux comprendre que les constructeurs, les fabricants de centrales n'aient pas forcément intérêt ou envie de voir proliférer l'éolien sur les côtes, sur les littoraux français. Alors, moi je suis favorable à la sortie du nucléaire à terme, parce qu'en effet, on voit bien qu'on a une maîtrise, on a un problème de dangerosité, on a un problème de, on ne maîtrise toujours absolument pas la question des déchets, la gestion des déchets, hein, et quand même c'est un cadeau empoisonné qu'on fait aux générations de l'avenir que de se retrouver avec ce problème à gérer. Je précise quand même aussi que le nucléaire repose sur une source initiale qui n'est pas renouvelable, hein, l'uranium de... C'est pas le pétrole, mais dans 60 ans, il n'y en aura plus non plus. Donc, on va faire quoi à ce moment-là? Est-ce qu'on va faire la guerre pour l'uranium après l'avoir fait pour le pétrole? Il paraît souhaitable d'essayer d'éviter ça. Et donc, évidemment, c'est pas un modèle qui peut être déployé à grande échelle. C'est-à-dire que tant qu'il y a que la France qui fait du nucléaire, on en est quasiment à cette situation. Enfin, je schématise, j'exagère un petit peu. On est quand même le nucléaire est quand même une ressource qui fonctionne dans très très peu de pays sur la planète et donc qui n'est absolument pas généralisable ou essaimable, qui n'est en aucun cas une solution pour tout le monde, parce que si ça devenait une solution pour tout le monde, d'abord on aurait des problèmes de risque, mais en plus de ça, la ressource dont on dit qu'à dans 60 ans il n'y en aura plus, c'est à 20 ans qu'il n'y en aurait plus. Donc on voit bien que le nucléaire n'est pas une solution à ces problèmes.
Alors Claude Taleb, je vais vous demander la permission de faire une deuxième pause musicale, et c'est toujours notre ami Jean Ferrat qui va chanter maintenant « On ne voit pas le temps passer ».
On se marie tôt à 20 ans et l'on n'attend pas des années pour faire 3 ou 4 enfants qui vous occupe vos journées. Entre les courses, la vaisselle, entre ménage et déjeuner, le monde peut battre de l'aile, on n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Une odeur de café qui fume, c'est voilà tout son univers. Les enfants jouent, le mari fume, les jours s'écoulent à l'envers. À peine voit-on ses enfants naître, qu'il faut déjà les embrasser. Et l'on n'étend plus aux fenêtres qu'une jeunesse à repasser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Elle n'a vu dans les dimanches qu'un costume frais repassé. Quelques fleurs ou bien quelques branches décorant la salle à manger. Quand toute une vie se résume en millions de pas dérisoires, prise comme un marteau et enclume entre une table et une armoire. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer.
Jean Taillarda, je vous rappelle que j'interviewe le tête de liste, la tête de liste d'Europe Écologie, Les Verts. Il s'agit de Claude Taleb. Merci encore d'être venu sur notre antenne. Alors, je sais, on n'a pas le temps de parler de la protection de l'environnement. Tout le monde sait que de toute façon, les écologistes sont pour la protection de l'environnement, qu'il s'agisse de l'air ou de l'eau. Je vais vous parler de problèmes de société qui sont importants. Le système de santé, il y a une désertification médicale considérable. Est-ce que vous comptez appuyer ce que d'autres vont faire pour que la Haute-Normandie retrouve des médecins, des dentistes, etc.
Oui, bien sûr. Là aussi, on est quand même dans la réparation, mais il faut évidemment le faire. Hein. On est très clairement dans un système qui fait que, en effet, pour gagner, pour avoir peut-être des conditions de vie meilleures, enfin, et puis aussi pour mieux gagner sa vie, les médecins ont aujourd'hui peut-être le choix, et quand ils ont le choix, d'aller travailler ailleurs que dans notre région, mais aussi travailler plutôt dans des agglomérations, au cœur des villes et des agglomérations qu'à la campagne. Donc, tout ce qui peut être fait pour un peu rééquilibrer le système, pour faire en sorte que finalement on sache motiver de nouvelles vocations, des installations de jeunes médecins à la fois dans nos villes et dans nos campagnes est tout à fait positif. Et donc on soutient ces efforts-là avec un codicille qui serait, alors c'est quand même une responsabilité vraiment très importante de l'État, hein, la santé, la région est quand même pas outillé pour beaucoup agir sur le sujet, mais il y a quand même quelque chose nous qui nous préoccupe, c'est qu'on a des indicateurs d'un état sanitaire et social collectif de notre population qui là aussi sont pas très bons. On pense qu'il y a une relation hein, avec le mauvais état environnemental entre le mauvais état environnemental de la région et puis la prégnance d'un certain nombre d'affections, je pense. Maladies bronchopulmonaires qui sont extrêmement importantes en Normandie. Et donc, il nous semblerait intéressant, il nous semble que la région pourrait apporter une contribution utile à la connaissance de ces phénomènes-là, à mieux connaître ces phénomènes-là. Parce qu'aujourd'hui, on en est à des impressions, on en est à des intuitions. Tout un chacun, quand il va voir son médecin traitant, entend souvent son médecin lui dire qu'il y a un problème, il y a tel cancer qui est en train de se développer, que tout ça, c'est lié à l'environnement. Mais en même temps, ce sont des choses qui ne sont pas établies. Et donc, on souhaiterait, nous, que peut-être la région intervienne pour améliorer la connaissance dans ce domaine-là, pour lancer les recherches épidémiologiques qui nous permettront de connaître de façon plus pointue les raisons de prolifération d'un certain nombre d'affections cancéreuses, par exemple, dans la région. On est 3% des habitants de la France, on a 10-11% des cancers, je crois. Je me permettrai pas de dire que tous ces cancers sont liés à l'environnement, je n'en sais rien, mais il y a quand même suffisamment de présomption pour qu'on se donne les moyens de un peu d'en savoir un peu plus.
Claude Taleb, quelles sont vos positions sur l'aide aux personnes âgées et la réforme des retraites, qui est nécessaire puisque l'espérance de vie augmente et malheureusement on vit plus vieux et il faut que des gens payent les retraites.
Heureusement, on vit plus vieux. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle du moment. Et puis, moi, je le vois et j'apprécie ça tous les jours parce que j'étais à la région en charge de suivre une partie du mouvement associatif qui est celui des associations de solidarité internationale qui s'occupent qui soutiennent des projets de développement dans les pays du Sud. Et ce que je constate, c'est que dans ces associations, il y a ou bien des migrants qui font beaucoup d'efforts sur eux-mêmes pour épargner parfois un peu d'argent à investir dans leur pays d'origine, et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévoles, et parmi ces bénévoles, une part très importante de retraités qui sont des personnes en pleine forme, qui sont tout à fait essentielles à la vie associative. Alors, donc moi je trouve que c'est bien hein, qu'on vive plus longtemps, c'est une chance pour tout le monde. En même temps, on voit apparaître en effet des pathologies hein, qui nécessitent des interventions publiques beaucoup plus fortes pour assurer la solidarité, pour assurer l'accompagnement des personnes, le maintien des personnes à domicile, l'accompagnement des personnes qui ne sont plus tout à fait à même d'accomplir toutes seules un certain nombre de tâches essentielles de la vie quotidienne. Donc là, on est plus dans les responsabilités des départements, hein, de l'action sociale des départements, et je pense qu'elle doit être soutenue. Elle doit être soutenue de la même façon qu'il faut, par exemple, travailler, la région peut le faire à la professionnalisation hein, des associations, des entreprises qui travaillent dans ce domaine-là, à améliorer la qualité des prestations, à les garantir. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut faire. Concernant les retraites, moi, je crois que il faut bien sûr travailler sur cette question. Il faut pas refuser de non seulement d'ouvrir les yeux, mais d'imaginer des solutions d'avenir pour pérenniser les systèmes de retraite, parce que l'existence d'un système de retraite est quelque chose de fondamental pour la cohésion sociale, enfin pour la vie de tout le monde. Hein, donc c'est très important. Après, je crois qu'il faut mettre en face les besoins de financement actuels et tenir compte quand même de la situation de l'emploi. J'espère que personne ne pense que n'envisage de se contenter hein, de la situation de l'emploi telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'on sait qu'à l'avenir, il y a quand même des ressources qui peuvent être dégagées par la mise au travail de davantage de monde. Nous, en tout cas, notre programme économique qui vise à recréer de l'activité, à recréer de nouvelles entreprises, donc de nouveaux employés et donc de nouveaux cotisants. Donc il y a quand même à chercher des ressources de ce côté-là. Et puis, à un moment donné, il y a aussi des questions à se poser sur l'affectation de la richesse nationale. Hein, il y a quand même eu des choix importants qui ont été faits par le gouvernement en 2007 en matière fiscale, hein, qui visait à, avec le bouclier fiscal, quand même à plutôt favoriser, me semble-t-il, les personnes qui avaient le moins besoin. Hein, et je pense qu'il y a quand même sans doute des recettes à aller chercher de ce côté-là. Et puis après, c'est comme pour le reste, il faut mettre tout le monde autour de la table et regarder quels compromis doivent être opérés pour garantir à tout le monde le droit à sa retraite. Mais je pense que ce n'est pas raisonnable de commencer à mettre à l'index l'âge de départ ou bien le niveau des pensions. Hein, parce qu'on sait bien quand même que pour toute une partie de la population, le niveau des pensions, c'est quand même le minimum vital. Et je ne vois pas comment il est possible de remettre en question ce niveau des pensions.
Alors, trois dernières questions, Claude Taleb, sur des problèmes qui intéressent les Hauts-Normands. La réforme des collectivités territoriales, d'abord. Beaucoup de Hauts-Normands, comme de Français, n'y comprennent plus rien. Il y a les municipalités, il y a les cantons, il y a les départements, il y a la région, il y a maintenant la CREA. Donc, on a l'impression à chaque fois qu'on rajoute une couche d'administration supplémentaire. Alors, ça, c'est un point. D'autre part, le rapprochement des deux Normandies, est-ce que pour vous, c'est quelque chose de fondamental? Et le Grand Paris, comment voyez-vous le Grand Paris?
Voilà. D'accord, écoutez, je vais vous répondre sur tout ça en même temps, parce que je pense en plus que c'est lié. Ce sont des sujets qui sont liés. La réforme des collectivités. Sur le principe, nous, on est favorable à effectivement simplifier, à diminuer le niveau le nombre hein, de collectivités sur un schéma qui privilégierait l'Europe. hein, le niveau européen et le niveau des régions, et puis évidemment le niveau de l'État. On pense que les régions, c'est une bonne échelle pour mener des politiques de développement dynamique avec les habitants, et c'est la bonne échelle pour se projeter dans l'Europe, parce qu'on est très favorable en ce qui nous concerne dans la construction européenne. Donc ça, c'est l'idée de principe. Ça veut dire ça qu'il y a sans doute à l'avenir des niveaux de collectivités qui pourraient utilement ou disparaître, ou qu'il faudra faire des regroupements pour que les gens s'y retrouvent plus facilement, hein, et que le système soit finalement plus démocratique parce que plus transparent. La réforme des collectivités telle qu'elle se présente, malheureusement, elle ne va pas du tout dans ce sens-là. Hein. On est très contestataire de la réforme telle qu'elle s'annonce, parce qu'il apparaît que c'est une réforme non pas de décentralisation, mais une réforme de recentralisation. En tout cas, de recentralisation de la décision, puisque les régions, par exemple, seraient privées de la clause de compétence générale qui les autorise aujourd'hui à mettre en place des politiques innovantes, de leur propre initiative. Là, on n'aurait plus le droit que de mettre en œuvre les compétences strictes affectées à la collectivité. Et en plus, parce que cette réforme, elle prévoit que les régions ne lèvent plus l'impôt, de fait. Hein. Elles auront des allocations de l'État qui, lui, prélèvera directement. Donc, quand on lève plus l'impôt, quand on n'a plus les moyens de moduler la part de l'impôt, on est finalement assez réduit dans son pouvoir.
Alors, La Normandie.
Donc nous, on pense que de plus en plus, que cette idée de Normandie est une bonne idée. C'est une idée qui peut être utile, qui a pu être utile parce que on déplore quand même le fait que le destin de la Haute-Normandie risque d'être réduit à celui d'une espèce de couloir d'approvisionnement de la région Île-de-France. C'est pour ça que c'est lié au Grand Paris. Moi, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu du Grand Paris ne me séduit pas du tout, parce que je pense que c'est un projet pour l'Île-de-France, pour une partie plutôt de l'Île-de-France, même pas pour tous les habitants de l'Île-de-France, qui réduit finalement la Haute-Normandie à ses fonctions logistiques. Hein, je ne crois pas une seconde que la proposition de TGV soit autre chose qu'un leurre. On a besoin d'avoir des trains qui marchent, qui partent à l'heure, qui arrivent à l'heure rapidement dans les 10 ans qui viennent entre Paris et Le Havre. Et le TGV, c'est un projet à 50 ans, donc ça ne me paraît pas raisonnable d'opposer l'un à l'autre, comme c'est fait là. Et la Normandie, finalement, dans ce raisonnement-là, c'est le moyen de reprendre de la maîtrise de notre développement. C'est d'imaginer un développement qui serait moins subi, qui serait moins dépendant d'un certain nombre de décisions qui viennent du sommet. Là, c'est le président de la République qui nous annonce le Grand Paris. Après, il nous annonce le TGV, sans que jamais nous on soit consultés, sans que jamais on réfléchisse à ce qu'on veut faire. Donc, se tourner vers la basse Normandie, pour les Hauts-Normands, c'est le moyen de définir ensemble des politiques dynamiques, communes, en matière d'agriculture, en matière d'environnement, en matière d'énergie, en matière d'économie, en matière de formation, de recherche, d'université. Il nous semble que ça, c'est intéressant, et c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche, a priori, pour notre avenir, que finalement de rester dans le tuyau de la décision francilienne ou de la décision de l'État.
Alors, dernière question, dernière. Les infrastructures, ça compte, et je trouve personnellement qu'on utilise très mal la voie d'eau, cette magnifique voie d'eau qu'est la Seine, et le fer ne marche pas bien, le transport de fret par le fer, et donc on voit des camions sur les routes.
C'est une catastrophe environnementale et sociale, hein, sur les deux plans. Alors là aussi, on marche sur la tête. On apprend en ce moment que la gare fret de Sotteville, hein, est menacée d'être fermée au moment où on n'a jamais eu autant besoin de faire passer et transporter les marchandises par le fret. Le fluvial, on y est aussi très favorable. On soutient, nous, le fait d'en mettre beaucoup plus sur la Seine. Ça suppose de financer des infrastructures, et on n'y est pas du tout opposé. Hein. On pense que construire une écluse fluvio-maritime pour permettre aux bateaux de passer de l'espace maritime à l'espace fluvial au Havre, c'est quelque chose d'intéressant qu'il faut faire parce que ça peut permettre de rendre le transport fluvial compétitif avec le transport routier. C'est vraiment une urgence, une priorité absolue.
Alors merci Claude Taleb. Cette émission est maintenant terminée. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes tête de liste d'Europe Écologie, Les Verts. Et je remercie Cyril Moreau, votre directeur de campagne, qui était dans le studio en même temps. Alors je vous rappelle, chers auditeurs, que cette émission sera à nouveau diffusée de 23h à 24h ce soir, jeudi. Merci Claude Taleb d'être venu sur notre antenne.
Merci de votre accueil, merci beaucoup.
Merci Sam Alaragi.
C'était l'économie en marche. Présenté par Jean Taillarda.